Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix de la Plume. Aujourd'hui, nous allons recevoir Réjeanne Rajot, qui est auteure de Fantasy. Bonjour Réjeanne.
Bonjour Aurora.
Et Loïc, qui tient la boutique de l'Entre-deux-Mondes à Compiègne.
Bonjour.
Je suis ravie de vous avoir avec nous ce soir. La Voix de la Plume, c'est donc une émission mensuelle, tous les deuxièmes samedis du mois, à 19h sur Graphite. Et voilà, bienvenue aussi à nos auditeurs. Allez, on commence par Réjeanne. Aujourd'hui, on commence quand même par l'auteur, parce que ça me tient toujours à cœur de commencer par l'auteur. No offense, Loïc. mais on aura une organisation peut-être un tout petit peu différente de d'habitude, vous verrez ça. Alors Réjeanne, merci d'être parmi nous dans La Voix de la Plume. Tu écris de la fantasy et moi j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur tes romans.
Alors, c'est une trilogie fantastique.
L'intrigue. Donc c'est une trilogie fantastique où l'intrigue se déroule à la Nouvelle-Orléans, donc plus précisément en Louisiane. Et c'est sur une jeune étudiante qui apprend qu'elle est une puissante sorcière et qu'elle est destinée à anéantir Bill, le dieu celte des forces obscures, des forces du mal.
Ça s'appelle Les origines de la prophétie. Hein.
C'est ça, tome 1, initiation, et le tome 2 est déjà sorti aussi, donc c'est confrontation.
Et combien de tomes nous aurons ?
3. Le troisième est
un vrai fin.
Il y aura une vraie fin. Oui, il y aura une vraie fin. C'est pas une. Comme on a tendance des fois un peu à lire ou à voir. Non, il y aura une vraie fin.
D'accord. Et ça, c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour les lecteurs. Le tome 3 est prévu de sortir pour.
Là, il est en préparation encore. J'ai pas de date officielle.
D'accord. Donc, courant de l'année prochaine, peut-être.
Oui.
Il est déjà terminé, c'est une question d'édition ou il est encore en cours d'écriture ?
Non, il est fini. Après, il y aura juste la phase relecture. Relecture.
J'aime bien le juste. C'est souvent la phase qui est la plus longue.
Exactement, en plus. Non, il est fini. J'ai fini l'écriture, mais après, ça sera plus la phase correction. Et puis, relecture surtout aussi.
Très bien. Bon, donc ça va, c'est dans les tuyaux.
Ouais, c'est bon.
Donc toi, tu connais déjà la fin.
Ouais.
C'est rassurant aussi.
De toute façon, quand je l'ai écrit, j'avais aussi une idée de fin. Bon, elle a juste un petit peu changé par rapport à ce que j'avais eu en tête, mais ça reste vraiment dans la même veine que j'avais eue dès le début. Donc ça s'est terminé vraiment comme je le voulais. Et donc du coup, je suis contente. J'avais déjà la fin en fait.
Quand t'as commencé le premier tome.
Quand j'ai commencé, ouais, j'avais les grosses parties, on va dire. Et donc du coup, ouais, j'avais déjà préparé ma fin et je voyais comment je voulais la faire terminer. Donc il y a eu des petits changements, mais autrement, ça s'est terminé comme je le voulais.
Super.
J'ai une petite question. C'est de la fantasy contemporaine ou ça se passe à une époque ?
Non, c'est contemporaine. C'est contemporaine. Okay. C'est de maintenant. Il n'y a pas de. C'est notre époque, quoi. Il n'y a pas de. Ouais.
Ce qu'on appelle la low fantasy, du coup.
D'accord, je ne savais pas.
Souvent, quand ça. Un peu comme Harry Potter, quand ça se passe dans le monde d'aujourd'hui, mais que du coup, on y ajoute du coup, un univers fantasy, on parle de low fantasy.
D'accord.
D'accord, ouais.
très bien. Et du coup. Toi, dans la vie, en plus d'être auteur, t'es pas auteur à 100%, si je
m'abuse. Ouais, non, là, c'est vraiment juste... j'ai commencé vraiment... Je débute. c'est plus par plaisir, là, pour le moment. J'écris, c'est un hobby, c'est ce que j'aime écrire. Et ça m'a pris... Il y a 3 ans, quand j'ai vraiment commencé, parce que j'ai vraiment commencé à écrire en 2017... Et donc du coup, j'ai commencé le premier tome. J'ai pas écrit tous les jours. C'était un peu
décousu.
Ouais. Et puis c'est le tome 2 où vraiment je me suis mise vraiment quasiment tous les jours à écrire. J'ai vraiment fait tous les jours quoi. Et donc
c'est vrai que les rituels d'écriture pour les auteurs, on n'en parle pas assez, mais c'est hyper important. Moi, quand j'ai écrit mon premier tome, c'était pareil. Le tome 1, il m'a pris des années à écrire, mais en fait, pas tellement à écrire, mais vraiment à trouver mon rituel d'écriture. Et quand j'ai trouvé qu'en fait, écrire le matin, c'était magique.
Ah, ben, je me rends compte.
Tome 2, il s'est fait beaucoup plus vite.
Ouais, je me rends compte que le matin, ouais, il y a plus de. Enfin, après, c'est vrai que j'ai pas. Il y a des fois, si écrire le soir, là, quand on va commencer à arriver vers l'hiver où il fait nuit assez tôt, et puis tu vois, la petite lampe, la petite veilleuse juste derrière, tout est fermé, puisque du coup, bah, forcément.
Ça met dans une ambiance.
Ouais, ça met dans. Et j'aime bien cette ambiance-là pour écrire. Ça fait vraiment un petit espace cocooning. De temps en temps, je mets ma petite bougie à côté aussi. Enfin, tu vois, c'est vraiment un petit rituel. Et c'est vrai que j'adore ce moment cocooning. J'ai pas la cheminée, dommage. J'aurais la cheminée, ça serait vraiment.
Est-ce qu'il y a un plaid ?
J'ai pas le plaid non plus, mais c'est une idée. Je vais essayer, tiens.
Pour l'hiver qui approche.
C'est ça. Puis le petit chocolat chaud aussi.
Et voilà.
Non, mais c'est vrai que le rituel d'écriture, ça permet vraiment à un auteur d'avancer dans son travail et en plus d'être productif. Parce que quand on travaille sur son roman tous les jours, bah, du coup, on a tout en tête. Et, ouais. Et naturellement, le cerveau, il travaille à ta place dans la nuit. Et quand
c'est
tu
clair.
Te remets le matin à écrire, tu sais exactement où tu vas commencer, vu qu'hier...
Exactement. Il y a des fois, c'est vrai que j'écris une page ou deux en très, très rapidement. Et puis, bon, il y a des fois, bon, c'est un peu plus long parce que... Bah, j'ai l'idée, mais je sais pas pourquoi ça sort pas comme je veux que ça sorte, quoi. Mais autrement, c'est vrai qu'il y a des jours, je me rends compte, j'écris, mais à une vitesse, à une bonne vitesse, quoi. Et puis après, bon, bah voilà. Il y a d'autres jours, des fois, c'est un petit peu plus long, ça sort pas trop.
Et comment c'est structuré ? C'est t'écris un peu au fil de l'eau comme ça devient, ou t'as un plan qui est hyper détaillé avec déjà des scènes en disant dans
alors,
cette scène il se passe.
Pour merci Loïc de faire mon boulot.
Pardon.
Non, je t'en prie, c'est cool.
C'est un à changer. Le premier tome, c'est vrai qu'il était plus au feeling. J'ai
d'accord.
Plus, j'avais mon plan de début parce que je voyais à peu près comment ça voulait. Comment je voulais l'écrire, mais c'était plus au feeling, quoi. Mmh. Que là maintenant c'est un peu plus structuré. Enfin, c'est donc je suis sur une autre trilogie, mais donc du coup elle est plus structurée. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je l'avais déjà en tête, donc j'avais pu déjà la préparer.
Il y a un scoop
déjà...
là, tu viens de nous dire.
Ouais, c'est ça. J'ai un
chose.
Scoop. J'ai lancé un scoop.
Donc attention aux lecteurs, la relecture du tome 3 des Origines de la Prophétie va prendre vraiment du temps parce que
c'est ça. On est
déjà en train d'écrire sur autre chose. Okay.
C'est comme quand des fois, ouais, c'est fou. On est en pleine écriture et je sais. Enfin, des fois, voilà, on a d'autres. Enfin, moi, pour ma part, c'est ça. J'ai d'autres idées, d'autres. Donc, ouais, j'avais même pas encore fini, voilà, ma première trilogie, que je partais déjà sur d'autres idées, sur d'autres.
Mais c'est donc, ça qui est dur, en fait, en tant qu'auteur, quand on écrit un roman, c'est d'arriver à le finir. Parce qu'en fait, être auteur et dire, bah, je suis auteur parce que j'écris tous les jours, oui, ok, mais je suis auteur de romans et c'est vrai, ça, c'est. Un challenge en soi, parce qu'un roman c'est long, ça demande beaucoup de travail aussi après l'écriture du premier jet. Et du coup, effectivement, on a souvent une imagination un peu débordante et on a envie du coup d'aller vers un autre projet parce que c'est enthousiasmant. Mais en fait, il faut réussir à se canaliser pour pouvoir finir le projet sur lequel on est.
Ah, c'est ça, donc après, et puis des fois, on a tellement les idées qui partent un peu que
on a peur d'oublier aussi. On dit c'est ça. Mais cette idée elle doit être trop cool, mais si je la traite pas maintenant, après je vais oublier. Mais en fait, non, si elle est vraiment cool, on l'oublie pas.
C'est ça, c'est pour ça que je note moi des fois, je fais les grandes lignes, je mets déjà. Je note un peu près ce que j'ai des comme idée, ouais, et puis voilà.
Est-ce que c'est possible qu'il y ait un travers aussi un peu différent ? C'est-à-dire, vous commencez à écrire, vous avez votre plan, votre idée de base, et là, il y a plein d'autres idées qui viennent, et plutôt que se les garder pour une autre histoire, on a envie de charger à fond la première histoire avec plein d'idées complémentaires.
Non, pour ma part, je suis restée pratiquement dans les idées que j'avais
d'accord.
eues. J'ai pas eu trop encore pour le moment. Ça s'est peut-être un peu entrecroisé un moment entre la première trilogie et la deuxième. Mais comme du coup, je voulais vraiment rester sur les idées que j'avais pour la
d'accord.
deuxième et vraiment les idées que j'avais pour la première. Pas faire
d'accord.
un mélange. Et,
là, t'as réussi à canaliser.
Ouais, j'ai réussi à canaliser et vraiment garder ces idées-là pour la deuxième trilogie et mes idées déjà que j'avais pour la première. Quoi.
Après, quand on a des idées qui arrivent à foison, des fois, elles sont très corrélées à l'histoire qu'on est en train d'écrire,
oui.
donc c'est possible. Et puis, des fois, c'est transposable, mais en fait, des fois, c'est pas transposable. Enfin, on peut pas toujours dire « Ah, bah, cette idée, elle est cool, mais je la donnerai à un personnage d'un autre roman.
Ouais. »
Ça peut, mais quand, moyen, je dirais.
D'accord.
Tes sources d'inspiration, c'était quoi, Réjeanne, du coup, pour écrire de la fantasy, Nouvelle-Orléans, sorcier?
Après la Nouvelle-Orléans, j'ai dû regarder certainement des reportages ou tu vois des films où ça se passait là-bas, parce que justement, pourquoi pas un jour y aller, parce que tu vois, c'est quelque chose.
J'y ai jamais allée.
Non, j'y suis jamais allée, par contre. Mais je trouve qu'il y a un côté mystérieux, en même temps un côté un peu flippant aussi, mais c'est le côté. Je suis vraiment pas partagée, mais c'est le fascinant nous attire un peu, et en même temps on est un peu sur la réserve en disant oula, est-ce que vraiment je veux y aller, ou est-ce que.
Donc, moi j'ai en tête la série The Originals.
Et justement, ouais. C'est un peu pour ça qui m'a un peu aussi inspirée.
Ouais. True Blood aussi, il me semble, qui se passait. Alors, c'était en Louisiane, soit très proche en tout cas, mais.
Peut-être bien, ouais.
Je crois que dès qu'il y a des trucs un peu loup-garou,
c'est ça, justement.
En général,
c'est
souvent, le sud des États-Unis.
Je sais pas pourquoi, mais ouais. Donc, c'était ça. Et puis j'ai toujours. Donc après c'était ça quoi, plus et puis Charmed aussi pour le côté un petit peu sorcellerie, les on va dire les bonnes sorcières qui luttent justement contre le mal quoi. Donc les deux sources d'inspiration c'était plus The Original pour côté un peu Nouvelle-Orléans, et puis Charmed
pour le côté personnage.
Pour le côté personnage, ouais, c'est ça.
Et t'as fait le choix de l'auto-édition?
Parce que du coup j'avais commencé avec une maison d'édition, et donc ça s'est pas super bien passé parce que j'étais au courant de rien, je savais pas comment ça se déroulait.
Enfin, ça manquait de transparence.
Ouais, complètement. Donc du coup après je suis partie sur l'auto-édition, parce que du coup on a plus le visu en fait, on a plus le contrôle sur déjà ce qu'on le voit produit, plus facilement, ouais. Sur ce qu'on produit exactement, que la maison d'édition. Après bon, il y en a peut-être des très bonnes, c'est pas par rapport
à la mienne, en tout cas
c'est pas par rapport sur ma mauvaise expérience, mais voilà, celle avec qui j'étais, ça s'est pas du tout bien passé. Donc maintenant j'aurai un peu plus de mal à repartir sur une maison d'édition, parce que voilà, de ce qui s'est passé avec l'ancienne. Mais donc voilà, après c'est autopublication par rapport à mon vécu, si je puis dire.
Ouais, c'est ton expérience coup d'édition.
D'édition qui m'a, voilà. Parce qu'au moins,
pour reprendre le contrôle.
C'est ce que je disais, on voit au moins où on en est et on sait ce qui se passe, et voilà.
Mais du coup, en auto-édition, tu fais davantage de travail, c'est-à-dire qu'une maison d'édition, j'imagine, prend à charge pas mal de trucs, toi qui dois le faire.
C'est ça, parce que la maison d'édition, au moins, des fois, c'est ce que je me dis, c'est vrai que moi, ce que j'adore le plus, c'est écrire. Après, bon, voilà, il y a le à côté aussi où il faut qu'on gère tout, en fait.
D'accord.
Donc, c'est
et
ça.
Dans le tout, je précise, du coup, il y a le maquettage, il y a trouver l'illustrateur et faire l'illustration du premier de couverture.
Oui, c'est ça.
Faire toute la com autour du livre, trouver les salons.
C'est ça, exactement.
Payer aussi, du coup, tout un certain nombre de choses.
Ouais, parce que du coup, il faut que tu avances, par exemple, si tu veux un certain nombre de titres pour un salon parce que tu penses pouvoir en distribuer, il faut que toi, tu les achètes à l'avance, alors.
C'est ça. Là, de toute façon, j'ai une maquettiste, justement, qui me fait la maquette, quoi, les pages de couverture. Et en même temps, elle a un service imprimerie. Donc, franchement, ces prix restent vachement abordables. Et donc, par rapport aussi pour la maison d'édition où j'étais, j'avais un certain nombre de livres à acheter, mais c'était énorme, quoi. Donc, fallait les écouler après, quoi. Donc, par rapport à ma maquettiste, justement, qui me fait la page de couverture et le service imprimerie, elle a plusieurs offres. Donc, ça commence par 24 livres. Et par contre, la dernière, j'ai oublié. Mais c'est vrai que c'est les.
À partir de 24 livres, tu peux avoir un.
À partir
un
de 24 correct, livres, voilà, c'est ça. Et les tarifs sont vraiment plus que corrects. Et puis, elle fait en fonction de, des moyens, quoi. Mmh. Donc, franchement, là, de ce côté-là, je suis bien tombée parce que c'est vrai qu'elle a des super bons tarifs. Et puis. Par rapport à la maison d'édition, oui, je peux les écouler plus facilement que le
si
stock.
Si tu dois en acheter 150 d'un coup, c'est pas la même chose.
Ouais. C'est ça,
Même donc, pour le porte-monnaie.
Complètement. Puis après, il faut qu'on se retrouve de l'autre côté pour les salons, quoi. Par contre, voilà, le côté positif de la maison d'édition, c'est que nous, on a juste à se concentrer sur la phase d'écriture. Et puis, c'est eux derrière qui font tout le boulot, quoi. Donc il y a avantages et inconvénients dans les deux.
Ah oui, non, dans les petites maisons d'édition, il y a quand même un gros travail de communication qui est demandé à l'auteur.
Après, peut-être les grosses maisons d'édition.
Et après, je me permets de nuancer un peu, mais chez les grosses maisons d'édition, c'est vraiment top si t'es dans le. Parce que les grosses maisons d'édition, elles vont sortir des dizaines et des dizaines de romans dans une seule année, sauf qu'elles vont pas faire la même com pour tous les romans qu'elles vont sortir. Donc si t'es dans leur top d'artistes à mettre en avant, c'est super. Et si t'es plutôt dans le bas de la liste, c'est pas toujours hyper intéressant d'être édité par une grande maison. Faut le savoir, parce que des fois on pose la question: est-ce que t'es auto-édité, est-ce que t'es dans une maison d'édition, c'est cool, c'est quelle maison? Et puis on peut avoir dire: ah, t'es chez je dis une bêtise, mais Gallimard, c'est super. Gallimard, je pense que c'est quand même super d'une manière générale, mais finalement, tu peux aussi être moins bien traité dans une grande maison que dans une petite, parce que justement, il y a un ratio de production qui n'est pas le même non plus.
C'est quelque chose qui est pas mal dénoncé dans l'industrie du livre, le fait qu'il y ait énormément de choses qui sortent et qu'on sent que, on le voit, alors moi plus du côté du manga, mais à la limite, c'est aussi l'industrie du livre. On voit que tous les titres, chez même un même éditeur, ne sont pas défendus du tout de la même manière. Et j'entends carrément, des fois, il y a des maisons d'édition carrément plus petites qui vont faire pousser un titre parce qu'ils y croient à fond, parce qu'ils vont faire de la com derrière. Et des fois, vous allez avoir des grosses maisons comme Pika ou Glénat qui vont juste sortir un titre anecdotique. Vous n'avez même pas de synopsis quand on doit le commander en boutique. Et on se dit, mince, l'auteur qui est derrière, quand même, il devait être content de signer avec un grand. Mais finalement, il n'a même pas un synopsis sur la fiche produit qu'on nous envoie, quoi. Donc,
c'est un peu dur, quoi.
Ouais.
C'est un peu dur. Donc voilà, du coup, faire le choix de l'auto-édition, ça veut dire faire beaucoup de travail à côté, il faut être prêt à le faire. Mais il y a aussi des choses qu'on te demande quand tu es dans une petite maison. De toute façon, en tant qu'auteur, je pense qu'il faut savoir aussi se mettre en valeur, savoir s'affirmer, que ce soit dans une grande ou dans une petite maison.
Oui, là-dessus,
maison,
je pense qu'à mon
auto,
avis, ça ne change pas.
C'est un travail aussi à faire sur soi, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se disent qu'être auteur, c'est juste écrire. Mais même chez une grande maison, c'est beaucoup de représentation aussi.
Ouais. Ne serait-ce que les salons, je pense.
Déjà,
Tout à fait. Est-ce que tu es sensible à la critique littéraire?
Alors, si elle est constructive, non. Parce que justement, c'est...
Si elle est constructive, non.
Si elle est constructive, justement, c'est une bonne critique, parce que même dans la critique, on peut avoir c'est de ces erreurs en fait qu'on avance et puis qu'on peut progresser, et puis d'avoir pris cette critique là justement, ça peut nous permettre de ils ont eu raison, donc j'ai peut-être remodifié. Donc non, en fait, au contraire, si vraiment ça peut pousser,
tu vas en prendre en compte.
Oui, voilà, complètement, parce que justement ça sera des professionnels, donc ils savent de quoi ils parlent, et donc on
peut être des lecteurs aussi.
Oui, ou des lecteurs aussi, mais donc d'avoir le côté justement qui, parce qu'en écrivant on voit peut-être pas forcément les fautes, ou peut-être qu'on peut faire des petits loupés, quoi. Donc
oui, surtout, en plus, tu disais, t'écris par passion, et
voilà,
c'est donc, tes premiers romans.
C'est ça, c'est ma première trilogie, ouais. C'est super bon à prendre, et puis c'est sur un œil des fois extérieur qui peut justement nous donner de bonnes indications, quoi.
Est-ce que tu fais appel à des bêta lecteurs?
Non, c'est vrai que non.
D'accord.
J'en ai pas, ouais.
Donc c'est toi qui fais ta relecture et
c'est
ta correction?
Ouais.
T'as pas de correction pro non plus?
Correction, si, j'ai une correction. J'ai une correction professionnelle derrière, mais c'est vrai que j'ai pas les bêta lecteurs, ouais.
Ok. Peut-être à penser pour
cette trilogie. Ouais, exactement.
Je suis pas en train de dire que je suis volontaire, mais bon.
Eh écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Qu'est-ce que tu estimes être ta plus belle réussite, Jeanne ?
Ma plus belle réussite, c'est la publication de mes deux premiers tomes déjà, de les voir, de savoir qu'ils sont disponibles, de faire des salons, c'est là pour de voir les deux premiers tomes déjà de sortie, c'est super.
Et puis là, j'imagine qu'en plus, si tu as fini d'écrire ton troisième tome, tu as vraiment l'accomplissement total, parce que tu sais que c'est pour bientôt, ton histoire, elle est complète.
Exactement. Et puis, donc elle est, comme on disait plus tôt, il y a une vraie fin, donc voilà, quoi, il y a eu une évolution.
Un cycle qui s'achève.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc, les dernières phrases ont été un peu... je vais pas dire petite larme à l'œil, mais bon, de se dire c'est la fin, voilà, ça y est, ça faisait depuis 2017.
Ça fait pas rien.
Ouais, c'est ça. Depuis 2017, je l'écrivais, donc vraiment de poser. Bon, après, je me dis c'est pas fini parce que voilà, il y a les salons, il y a encore le côté derrière. Mes personnages vivent encore, mais...
L'émotion, elle est envers les personnages ou envers, ok, toute cette routine, c'est terminé et hop, on tourne
plus les personnages, parce que bon, la D'accord. routine, je l'ai toujours un petit peu, puisque bon, je continue quand même à écrire. Ouais. Mais ouais, non, c'est plus les personnages, de se dire, bon, bah voilà, surtout que je l'ai commencé, ça allait pas... Bon, c'était en fonction du travail, j'étais pas dans une bonne... pas une bonne période, mais bon, ça allait pas trop, quoi. Donc j'ai vraiment commencé à partir de ce moment-là, donc voilà, de dire, on voit l'évolution, et puis, de mettre les dernières phrases, d'écrire vraiment c'est ça, de faire le petit épilogue, et puis d'avoir une vraie fin, ouais, j'étais contente de l'avoir fini, mais en même temps, il y a un petit pincement au cœur.
Il y a un cycle qui se termine.
C'est ça.
Il y a un petit deuil à faire.
Exactement. C'est comme quand on finit un livre. Oh, bah ça y est, j'ai fini, quoi.
Ah, c'est un peu le même sentiment.
Ouais, c'est un peu le même sentiment, okay. Ouais. Bon, le livre, on peut le relire. Que
oui, c'est vrai.
La première trilogie, bon, elle est écrite.
Oui, voilà.
Ouais, voilà, c'est ça.
Donc, pour 2022, potentiellement un premier tome d'une nouvelle trilogie.
Potentiellement, ouais.
Et déjà, ce troisième tome...
Le troisième tome a sorti, voilà, c'est ça.
Des salons aussi
Là, ouais, j'en ai un le 16 octobre, donc ça arrive, à Plessis-Belleville. Et le 30 octobre, à la fin du mois, je suis à Auchan, à Noyon.
D'accord, il y a un espace culturel.
Ouais, bah, il y a un petit espace culturel, ouais, donc du coup, je serai là-bas, quoi.
Super. Eh ben c'est cool tout ça. Tu nous rappelles où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux ?
Alors j'ai Facebook, donc c'est Réjeanne Rajot, auteur. Et je suis également sur une librairie, une petite librairie solidaire. Donc c'est Je cherche un livre, tout est attaché, et .com.
D'accord, et je précise pour les auditeurs, Rajot c'est R-A-G-E-A-U.
C'est ça, exactement. Voilà. Exactement.
Donc Réjeanne Rajot, auteur, et Je cherche un livre.com.
C'est ça.
Super, bah, merci beaucoup Réjeanne. Loïc, on fait une petite pause musicale
tandis Absolument.
Allez, on va d'ailleurs partir avec un titre choisi par notre auteur aujourd'hui, Réjeanne Rajot, Reaching de Audio Machine. Bienvenue à nos auditeurs, nous sommes dans La Voix de la Plume, je suis Aurore et je vais vous accompagner encore pendant quelques dizaines de minutes dans cette émission. On vient de recevoir Réjeanne Rajot, auteur de fantasy. Et en temps normal, à ce moment-là de l'émission, on passe à l'interview de notre deuxième invité qui est aujourd'hui Loïc de l'Entre-deux-Mondes. Mais on ne va pas faire ça. Aujourd'hui, je vais vous proposer l'atelier d'écriture au milieu de parcours de cette émission. Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
Oui. À vos
vous
stylos.
Dites oui, vous ne savez même pas encore ce que je vous ai prévu. C'est ça vrai. Va, vous êtes gentils avec moi. Est-ce que vous êtes équipés ? Oui, ça va ?
Ouais.
Parfait.
Ouais, normalement.
Oui, un stylo, une feuille, ça suffit.
D'accord, ouais, voilà, ça va.
Je propose aussi à nos auditeurs, s'ils veulent s'équiper et puis le faire en même temps que vous, savoir que vous n'avez pas eu le sujet à l'avance, hein, vous n'avez pas de préparation. Alors, je vais surfer sur le thème du livre de Réjeanne, Les origines de la prophétie, qui se passe à la Nouvelle-Orléans, en vous proposant de vous mettre dans la peau d'un sorcier ou d'une sorcière de la Nouvelle-Orléans, tant qu'on y est. Comme ça, on est continue. Vraiment dans l'ambiance. Votre fief, c'est le bien connu French Quarter, le quartier français. Nous sommes à quelques jours d'Halloween maintenant. Vous sentez que quelque chose bloque les puissantes énergies qui doivent vous accompagner pendant la célébration de la fête des morts. Est-ce que c'est un ennemi ? Est-ce que c'est un blocage personnel ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a lancé un sortilège à votre rencontre ? Ou encore d'autres obstacles ? Moi, je ne sais pas. Ce sera à vous de me dire. Et voilà, vous devez du coup nous dire ce qui vous empêche, à votre avis, d'accéder à cette puissance suprême qui entoure le jour d'Halloween. Et vous devez vous en défaire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir imaginer cet obstacle et aussi un sort ou une potion qui va pouvoir vous libérer de ce contexte qui ne vous convient pas. Et voilà. Donc, vous devez imaginer une petite scène où vous allez récapituler ce qui se passe, du coup, cet obstacle ou cet ennemi, et vous allez formuler ou administrer la potion ou le sort en question pour du coup vous libérer. Attention, vous n'avez que l'équivalent de 2 chansons pour le faire.
D'accord.
Donc environ 8 minutes pour réaliser l'exercice. C'est un exercice en toute bienveillance. On est entre nous. Voilà. Non, mais on sait qu'on peut, en 8 minutes, on ne peut pas demander à l'impossible. C'est normal. Il n'y a pas de souci. Je propose aussi à nos auditeurs, donc, qui se sont peut-être déjà équipés depuis tout à l'heure, de participer avec nous s'ils ont envie, qu'ils n'hésitent pas. Vous pouvez poster votre texte sur la page Facebook de la radio, ou alors vous pouvez me l'envoyer en message privé sur mon Insta à YGBleu, voilà, et je peux le partager en story par exemple, voilà. Et même si vous écoutez le podcast et que vous avez quand même envie de participer, et ben il n'y a pas de souci, vous pouvez participer, je posterai quand même vos textes en story, ça me fera plaisir. Donc je vous laisse commencer, Loïc et Réjeanne, go, chaque minute compte. Et puis, on va se retrouver après un petit interlude musical pour vous partager vos productions. Et voilà, moi, parce que j'adore les BO de films et que bah, je suis devenue fan de celui-ci en allant le voir très récemment, je vous propose un extrait de la bande originale de Dune, de Hans Zimmer.
Et,
voilà, j'ai eu du mal à choisir le morceau, mais je me suis arrêtée sur « My road leads into the desert ». Voilà, c'est parti. Thank you. Eh bien, je peux vous dire que ça bosse dur là dans le studio, ça gratte. C'est très bien, on va les laisser encore un petit peu travailler, nos invités. Et on va vous passer un autre extrait de bande originale. Il s'agit cette fois d'une reprise de Cyndi Lauper, Time After Time, par Joseph William Morgan, un extrait de la série Timeless. Stressant un peu la musique pour terminer.
C'est vrai que vous avez le compte à rebours.
Donc voilà, nous sommes de retour dans La Voix de la Plume. Nos invités viennent de finir leur atelier d'écriture. Est-ce que le thème vous a inspiré?
Ouais.
Oui, t'as gratté presque une page entière.
Ouais,
j'ai rarement vu un invité aussi prolifique.
C'est vrai, ouais, ça veut pas dire que c'est forcément bien. Hein.
Non, mais ça veut dire qu'il y a de la matière en tout cas. Ça, c'est déjà un bon point. Donc je rappelle quand même que cet atelier n'est qu'un exercice, on est là tranquille, on n'attend pas l'impossible. Et l'idée en fait d'un atelier d'écriture en général, mais de cet exercice sous une contrainte de temps assez dure, c'est aussi d'inviter notre esprit à se mettre en mode créatif, là, maintenant, tout de suite. Et voilà, et que nos auditeurs nous envoient leurs textes aussi, il ne faut pas avoir peur. Qui se lance en premier ?
Bon, qui ?
Moi, je veux bien.
Bon, allez, vas-y.
Alors, sentir la magie qui imprégnait la Nouvelle-Orléans avait toujours été naturel pour lui, aussi naturel que de respirer. Pourtant, à ce moment précis, il ne sentait plus rien. La magie avait déserté la ville. Fouillant dans ses souvenirs, il se rappela l'enseignement de son mentor. Pour circuler, pour se diffuser, la magie passe par des lieux mystiques, et c'est là qu'il faut se rendre si on caresse l'espoir de rouvrir les vannes qui permettent aux énergies occultes de diffuser dans notre monde. Et le lieu mystique le plus proche de la Nouvelle-Orléans, il se trouve dans le Bayou. Mais sans magie, comment réparer un lieu mystique ? Le problème semblait insoluble. C'est en fouillant encore plus loin dans ses souvenirs que la réponse lui apparut. Quand on n'a pas accès à la magie, on trouve du pouvoir dans le sang. Cette pensée le fit frémir,
Du sang allait devoir couler ce soir, beaucoup de sang.
Ouais, moi aussi, je frémis. Bravo Loïc, merci. J'aurais envie de savoir la suite.
Je ne sais pas moi-même.
Je te le relaisse 8 minutes, tu veux.
J'ai pas encore décidé si ce serait son sang à lui ou le sang des autres.
Ah bah.
Le sang d'un animal, d'un crocodile dans
Peut-être, dans le bayou, il y a de quoi faire.
Très bien, merci.
Ouais. Alors moi, j'ai pas du tout fait.
Ah mais c'est ça qui est bien.
Ouais, c'est ça. Des choses moi, c'est surtout plus inspiration. Alors du coup, tu vois, c'était pas trop. Moi, ça m'a plus inspiré qu'en fait, c'était par rapport donc comme tu avais indiqué que c'était à quelques jours d'Halloween. Donc du coup, moi, c'était les sorciers décédés, donc les très anciens comme les nouveaux qui en fait, c'était eux qui bloquaient. La magie, qui canalisait dans le but en fait de revenir parmi les vivants et donc du coup de reprendre tous les pouvoirs et d'être de retour à la Nouvelle-Orléans, pardon. Et donc du coup les sorciers actuels, les sorciers vivants devaient s'allier les uns aux autres pour justement bloquer et renvoyer en fait les morts chez les morts.
D'accord. Voilà. Ne pas leur permettre de traverser.
C'est ça exactement.
On tient à quelque chose aussi là.
Deux styles différents mais
J'aime bien l'inspiration Halloween, c'est vrai que je suis peut-être un peu passée à côté là sur les morts.
C'est parce qu'on est au mois d'octobre, alors du coup je me suis dit c'est sympa, mais il n'y avait pas, pas de soucis. C'est très bien, ça fait deux styles différents.
Ouais, c'est ça.
J'aime beaucoup. Bon, j'espère qu'on pourra retrouver ces idées peut-être dans tes romans, déjà. Merci beaucoup d'avoir fait entendre votre voix et d'avoir pris votre plume aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir et puis celui des auditeurs, j'espère. Et non, cette émission ne touche pas à sa fin. Nous allons parler un petit peu plus de toi, Loïc, et notamment de cette belle boutique que tu tiens avec ton associé.
Benjamin, ouais.
Dans Compiègne, rue Jeanne d'Arc, hein, c'est ça ?
C'est ça, absolument.
Donc ça s'appelle L'Entre-deux-Mondes, un nom qui attise beaucoup ma curiosité. Je te laisse nous expliquer peut-être le principe de ton entre.
L'origine du nom en fait vient du lieu, parce qu'on avait trouvé le lieu avant le nom. On avait un peu le concept, mais on n'avait pas encore le nom. En fait, c'est une boutique où vous allez trouver plein de choses qui sont reliées au monde, au pluriel, au monde imaginaire, et à tout ce qui est un peu ludique. Donc en fait, on a du manga. On a des produits dérivés, des figurines qui viennent de films ou de séries qui sont assez connus, type Harry Potter, Stranger Things, pas mal de Star Wars aussi, du Disney évidemment. Après, il y a des choses qui dépendent aussi un peu de l'actualité du moment. Par exemple, je n'ai plus de Walking Dead puisqu'il ne se passe plus grand-chose sur Walking Dead, mais j'ai d'autres choses qui rentrent à la place. On a le sous-sol qui est, lui, tout l'espace ludique. On a du jeu de société, du jeu de rôle, depuis récemment du jeu de figurines aussi à assembler, à peindre. Et on a la fameuse antre qui est notre salle de jeu en pierre de taille avec un plafond voûté et qui nous a inspiré à la fois le logo de l'entreprise puisque c'est ces fameuses pierres de taille et le nom de la boutique puisque on galérait un peu à trouver un nom. On voulait un nom qui soit rigolo, un peu jeu de mots. Et puis puisqu'on avait cette fameuse antre, on s'est fait un petit brainstorming avec des amis et c'est le nom qui est ressorti.
Super, c'est vrai que ça ressemble, on est dans l'antre.
C'est devenu même un peu un abus de langage, bienvenue dans l'antre, alors que c'est une boutique, c'est pas l'antre d'un dragon, mais au bout d'un moment ça reste.
Non, c'est une antre positive.
Hein. Merci. Ouais.
Très positive, moi j'adore beaucoup votre boutique.
C'est gentil.
Et du coup, si je ne m'abuse, dans cette antre que vous avez en sous-sol, vous organisez aussi des animations.
Oui, tout à fait. On fait des événements, on se débrouille pour qu'il y ait forcément un événement par jour, sauf cas très exceptionnels.
Par jour ?
Ouais. Semaine, en fin de journée, les créneaux sont réservés à certains types de jeux. Le mardi, on réserve ça aux jeux de cartes Pokémon. Donc là, on a souvent des enfants, mais pas que. Il y a aussi des adultes très très bien qui jouent à Pokémon.
Parce qu'il n'y a pas d'âge.
Absolument.
Il n'y a pas d'âge.
Le mercredi, on le réserve aux joueurs de Yu-Gi-Oh! Le jeudi, ça va devenir le créneau sur les figurines à peindre et à collectionner. Alors, on vient tout juste de démarrer ça, donc on n'est pas encore capable de lancer les animations, mais ce sera le créneau qui sera prévu pour ça. Le vendredi, c'est le créneau sur Magic. Et le samedi, on a toujours un créneau le matin qu'on appelle le Café Ludique, où là, on fait ou du jeu de rôle ou du jeu de société. Il y a un membre de l'équipe qui descend avec, les invités et qui vous fait jouer au jeu sans que vous ayez besoin de vous palucher des tomes et des tomes de règles. C'est-à-dire qu'on passe vraiment du temps à jouer et pas à lire des règles.
Et, parce qu'il y a une sorte de MJ, du coup, qu'elle a.
Voilà, absolument. Quand c'est du jeu de rôle, c'est du MJ. Et quand c'est pas du jeu de rôle, c'est un membre de l'équipe qui connaît très bien les jeux et qui vous fait jouer directement sans que vous ayez besoin de passer par la case. On lit une heure les règles sans être sûr d'avoir bien compris avant de pouvoir se lancer. Et l'après-midi, le samedi après-midi, c'est en général du tournoi officiel, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, bientôt du Warhammer quand on fera des parties avec le jeu de figurines.
D'accord. Donc rien essaie, jeudi voilà. J'ai loupé.
Si, jeudi, ce sera le jeu de figurines, mais c'est pas encore, c'est pas encore lancé. C'est pas encore lancé.
Ah, ça arrive alors.
C'est ça.
Et bah, disons que ça fait un agenda bien rempli.
Ouais, un beau planning.
On essaie d'en avoir pour tous les goûts.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est sympa. Et c'est ouvert à tous ?
Absolument, ouvert à tous. Alors, souvent,
comme tu as dit invité, est-ce qu'il faut
la carte
Non, c'est ouvert à absolument tout le monde. On invite tout le monde justement à venir dans l'antre. La petite contrainte qu'on a pour Pokémon en général, si les gens viennent plus pour jouer, s'ils veulent faire des échanges, il y a zéro contrainte. S'ils viennent plus pour jouer, il faut souvent savoir lire. Et c'est la limite qu'on met aux parents quand ils veulent nous déposer leurs enfants. Ils disent, oh, apprenez-lui à jouer à Pokémon. Il y a du texte sur les cartes Pokémon. Mm-hmm. Si les enfants ne savent pas lire, c'est difficile de leur apprendre à jouer. Mais c'est là la seule contrainte.
D'accord, oui, ça va, ça reste très raisonnable. Super, bah dis donc, ça me donne envie de venir, mais je crois que je travaille un peu sur tous les créneaux. Mais
pas de chance. Alors, j'ai une petite astuce pour toi. On va bientôt faire des nocturnes les vendredis soirs et les samedis soirs. On n'a pas encore tout à fait défini le pourquoi du comment, mais d'ici novembre, on va laisser ouvert la boutique en nocturne. Et la prochaine nocturne, d'ailleurs, c'est pour notre journée soirée Halloween du 30 octobre. Donc Halloween, c'est le 31, mais le 31, c'est un dimanche.
Et
on est fatigué le dimanche. Du coup, on le fait le samedi.
C'est bon, ça sera quand même...
C'est ça, on va rester dans le thème. Et on sera ouvert jusque minimum minuit, et plus si le cœur nous en dit, avec des animations qu'on va vraiment orienter un peu spooky pour coller avec le thème d'Halloween.
Ah, super.
Ouais.
Eh bien, écoute, je suis ravie, mais... Je ne sais pas si je serai sur Compiègne pour le week-end d'Halloween, mais est-ce qu'il y aura des plaids en novembre?
Je ne sais pas s'il y aura des plaids, il y aura des cosplays, parce que le deal qu'on s'est passé entre nous, tous les membres de l'équipe, c'est qu'on vient costumer. Les gens sont invités à venir costumer d'ailleurs, je pense qu'on donnera des bonbons à ceux qui viennent costumer. Les années précédentes, les gens jouaient plutôt le jeu.
Il va y avoir du monde.
Mais du coup, les années précédentes, Halloween ne tombait pas un dimanche, donc c'était plus facile de faire ça le jour même, et peut-être que les gens avaient plus le cœur à le faire. On espère qu'ils suivront un peu la tradition déformée, cette fois-ci, de le faire la veille d'Halloween, mais de venir costumer quand même à la boutique.
Super. Mais attirer les gens avec des bonbons, c'est déloyal. Hein.
Alors, on a des bonbons et en général, on a de la soupe à la citrouille parce qu'on a deux personnes qui se cosplayent en professeur McGonagall et Maugrey Folleuil qui viennent distribuer de la soupe à la citrouille pendant le soir. Parce que quand on est ouvert jusqu'à minuit, on a faim au bout d'un moment.
Ah oui.
Et donc, on aime bien être ravitaillé. Je ne sais pas si cette année, ils viendront.
C'est pas encore l'appel est lancé.
Ouais.
C'est ça.
J'imagine que quand on a une antre où on a plein de goodies, de choses autour de l'univers science-fiction, fantasy, fantastique, c'est qu'on est passionné par ça. Et manga, c'est qu'on est passionné par ça. D'où ça te vient, du coup, cette passion? Comment on arrive à ouvrir une boutique sur ce thème-là?
À cause d'un accident. C'était
un heureux accident,
j'espère. Un heureux accident, non mais un accident de parcours, on va dire. C'était pas quelque chose qui était du tout programmé. En ce qui me concerne, moi, de ce que je me souviens, j'ai toujours été baigné dans les univers un peu imaginaires. J'avais des cousins qui étaient, à mes yeux, très en avance sur moi là-dessus. C'est eux qui m'ont montré comment on joue aux cartes Magic, c'est eux qui m'ont montré les mangas, c'est eux qui m'ont montré mes premiers jeux vidéo. Et du coup, toujours, de ce que je me souviens, j'ai toujours été baigné là-dedans. Je soupçonne que c'est à peu près pareil pour Ben. Et donc j'ai grandi dans ces univers-là. Et j'ai rencontré Ben, mon associé, pendant nos études. On faisait des études de chimie. C'était mon binôme en TP de chimie.
Ah bah ça n'a rien à voir.
Absolument rien à voir. On s'est retrouvés un jour par hasard, après nos études, dans la même boîte. Pendant les longues heures de pause, je dois confesser qu'on en prenait quand même pas mal, on se rêvait à se dire un jour on ouvrira une boutique de jeux et de culture pop et geek, un jour on le fera.
On pourra kiffer notre vie.
C'est ça. Sauf que quand on a tous les deux un CDI, on dit un jour, mais c'est un peu des paroles assez vagues. Et l'entreprise de Benjamin, parce que moi après je suis parti, Benjamin est resté dans la même entreprise, je suis parti dans une autre. Et l'entreprise de Benjamin a délocalisé en Allemagne. Et la vie a un peu choisi pour lui que le CDI, c'était plus une option. Et du coup, c'était peut-être le bon moment de lancer les projets sur lesquels on dit un jour. Moi, j'étais pas particulièrement heureux dans mon travail à ce moment-là, donc ça m'a pas trop chagriné de partir. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est lancé. Mais c'est un peu les étoiles qui se sont alignées, qui nous ont dit, les gars, quand même, là, c'est le moment. Si là, c'est pas le moment, ce sera jamais.
Mais c'était bien d'avoir été à l'écoute de ces étoiles et en tout cas d'être resté ouvert sur. Parce que des fois, les étoiles s'alignent, puis on passe à côté.
Et on voit pas. Voilà. Donc là, du coup, non, ça s'est un peu imposé à nous. On s'est dit, c'est le moment où on peut faire quelque chose. Et ça fait quand même un moment qu'on dit, un jour, on fera ça. Est-ce que c'est du coup pas le moment de le faire ?
Super. Et nous, on est très contents.
Merci.
Enfin, moi, personnellement, mais je pense que. Enfin, je sais que cette boutique plaît à énormément de monde dans Compiègne. Vous êtes ouvert depuis 2 ans ?
Ça va bientôt faire 3 ans. En mars, ça fera 3 ans qu'on a ouvert. Alors après, si tu veux retrancher les mois de confinement, je ne sais pas exactement ce que ça donne, mais ça fait 3 ans, oui, bientôt.
Bientôt 3 ans. J'espère que vous allez marquer le coup.
Ah oui, bien sûr. Alors, on avait déjà fait une soirée anniversaire l'année dernière pour les 2 ans. Grand mal nous en a pris puisque le soir même, après, Monsieur Castex annonçait le confinement. Donc, je ne sais pas si c'est de bon augure ou pas, mais on tentera quand même notre coup encore en 2022 et on refera une soirée d'anniversaire. Parce que c'est important, il faut célébrer. Et puis, on aime bien boire un peu de bière et puis recevoir les clients habituels, les amis, costumés, si on le fait comme les années précédentes. Donc, ce sera avec grand plaisir. Oui.
Toutes les occasions sont bonnes pour se costumer.
J'ai cru que tu allais dire pour boire de la bière, mais les deux sont vrais. Les deux sont vrais.
Allons bon. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour 2022 en plus de cet anniversaire ?
Alors, là, il y a ce fameux rayon de figurines à collectionner qu'on démarre. On a quelqu'un qui va rejoindre l'équipe, qui va nous aider justement à renforcer tout ça, qui est très connaisseur en particulier du monde ludique. Et ça va nous faire du bien aussi pour qu'on puisse justement se concentrer, nous, sur d'autres projets. Parce qu'on a plein d'idées, on parlait des idées chez les auteurs, mais c'est un peu pareil quand vous montez une entreprise. Ah, on a un milliard d'idées en tête, sauf que on n'a jamais le temps. Donc il faut prioriser et du coup c'est un peu renoncer parfois sur certains trucs, c'est douloureux. Et on est content d'avoir justement quelqu'un qui rejoint l'équipe où ça va nous permettre aussi nous de dégager un peu de disponibilité mentale et du temps. Pour faire d'autres projets. Mais alors, quel projet ? C'est un peu tôt pour le dire, parce qu'on a encore tellement de trucs en tête qu'il faut vraiment qu'on réduise un peu la liste.
Je comprends. Le choix n'a pas encore été arrêté.
C'est ça. On a trop de choix.
Si je ne me trompe pas, vous serez de nouveau, vous y étiez en septembre, mais à la Compiègne Geek Convention. Compiègne Geek Convention, je vais y arriver. Le 11 et 12 juin 2022.
Absolument, on a rempli le dossier en tout cas, donc là c'est dans les mains de l'organisateur, mais je ne peux pas imaginer qu'on n'y serait pas. Donc oui, c'est le gros rendez-vous. On en a deux gros dans l'année qui marquent un peu l'année. Il y a la Compiègne Geek Convention et il y a un festival de jeux de société qui est excellent, qui s'appelle Pluie de Jeux, qui se trouve à Pontpoint à côté de Pont-Sainte-Maxence, dans une magnifique abbaye.
L'abbaye du Moncel.
Absolument, l'abbaye du Moncel. Et qui est sans doute le plus grand festival de jeux de société, au moins du département, je n'irai pas jusqu'à dire de la région. Il y a peut-être des festivals qui réunissent plus de personnes, mais en tout cas, pas dans des lieux aussi majestueux que l'abbaye du Moncel. Et ça, c'est toujours le premier week-end de mai. Mais ça fait 2 années de suite qu'avec le Covid, ça saute. Donc, on croise les doigts pour que là, ça dure. Et ça nous permet d'avoir du coup 2 conventions. Une convention plus orientée pop culture, univers de films, de séries, de mangas. Ça, c'est la Compiègne Geek Convention, même si on y anime un peu de jeux de société. Et une plus côté ludique, où là, on va retrouver tout ce qui est jeux de cartes, jeux de société, jeux de rôle. Les organisateurs installent même des jeux en extérieur. C'est vraiment le monde du jeu au sens général qui se retrouve à l'abbaye du Moncel au début mai. Donc, c'est les 2 festivals qu'on espère pouvoir faire cette année.
Super, ça fait déjà 3 beaux événements prévus pour un premier semestre.
Et puis l'anniversaire.
Voilà. Donc, dis donc, ça part bien.
Oui. Bien. On espère que tout ça va pouvoir se dérouler normalement.
Oui, tout à fait. On va partir là-dessus,
sinon on ne prévoit rien. C'est positif, oui, absolument.
Donc, non, il faut continuer à prévoir. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai oublié de te demander ?
Je crois que non, ça me semble assez clair. Donc la boutique en centre-ville de Compiègne, on est super content de voir les gens. S'ils viennent costumés, on est encore plus content. S'ils viennent costumés Halloween, on leur donnera des bonbons.
Des voilà. Animations tous les jours.
Des animations tous les jours, oui, tout à fait. Et puis une nocturne pour Halloween, au moins jusque minuit, en tout cas pour le samedi 30. Et on va essayer de systématiser la chose pour les vendredis et les samedis à partir du mois de novembre.
Pour l'hiver, en fait.
Oui, enfin, ça durera peut-être pour toujours, mais ça va démarrer en novembre. Alors, attention, quand je dis le pour toujours, décembre, c'est toujours un petit peu délicat parce que décembre, on a besoin beaucoup de s'étaler pour installer les jeux qu'on vend à Noël. Et du coup, ça grignote beaucoup sur la place qu'on réserve à l'événementiel. Et en plus, en décembre, en général, on est hyper crevé des journées de ma boule qu'on fait. On est ouvert 7 jours sur 7 jusqu'à Noël en décembre.
Aïe, aïe, aïe.
Donc, c'est toujours un peu difficile de caler des animations. On ne dit pas que c'est impossible, on va essayer
jours sur
de.
7, s'il y a des jours jusqu'à minuit, ça commence
voilà,
à faire beaucoup.
Tu comprends le truc, voilà. Donc du coup, je sais pas si cette année on arrivera à caler de l'animation là-dedans. On va essayer parce que ça a toujours été un peu le cœur de la boutique, c'est de pas être juste un endroit pour vendre. C'est surtout un endroit pour se retrouver, essayer des choses, rencontrer des gens qui partagent les mêmes passions.
C'est ce qui fait de l'antre un endroit convivial.
Merci beaucoup. Et donc on espère garder ça aussi pour décembre. Mais voilà, il y a un petit challenge logistique là qu'il va falloir réussir à dépasser.
En même temps, le mois de décembre, c'est toujours un mois assez
C'est le rush
heureux.
Pour beaucoup de monde.
C'est le rush, mais en même temps, les gens sont contents.
Ah
ils
oui.
viennent pour
ah
le,
oui, bah
pour le plaisir d'offrir.
De la gaieté, de la bienveillance quand même.
Donc voilà, y a pas de... ça ne va pas plomber l'ambiance, le fait si vous faites
j'espère
un petit
pas.
Peu moins d'animation. On ne voit pas comment.
J'espère qu'on nous pardonnera.
Eh bien, super. Est-ce que vous avez aussi un site internet ?
Oui, il est en cours de construction depuis longtemps maintenant. C'est entredemonde.fr, donc A-N-T-R-E-D-E-M-O-N-D-E-S.fr. En fait, il est déjà fini. C'est juste qu'il faut que maintenant que moi, je l'alimente de contenu. Et je n'ai
faire
pas le
vivre,
temps.
En fait, ouais.
C'est ça fait partie des milliards de projets qu'on espère pouvoir réussir à gérer avec l'arrivée du nouveau membre de l'équipe.
Et là, vous n'êtes que deux avec Ben ?
Non, alors on est deux et on a deux apprentis qui nous aident. On a Maxime et Isaline qui nous aident à la boutique. Mais puisqu'ils sont apprentis, ils sont aussi à l'école et c'est important, il faut y aller. Donc du coup, là, on aura vraiment quelqu'un à temps plein, mais pas apprenti. Donc quelqu'un qui sera là, vraiment, qui va pouvoir nous décharger aussi beaucoup. Même ne serait-ce que mentalement, en fait, ça permet de garder de la place dans l'esprit pour pouvoir penser à d'autres choses.
Encore à d'autres choses.
Encore
pour
à d'autres choses. Bah, ça, c'est ça le problème. C'est qu'on sait que c'est inévitable et qu'on finira par re-remplir ce temps qu'on va gagner par des nouveaux projets et re-avoir l'impression de ne pas avoir assez de temps. Mais vaut mieux ça que l'inverse, je pense.
Oui. C'est comme ça qu'on avance et puis qu'on teste des choses. Ça marche, ça ne marche pas.
Oui, voilà. Des fois, on teste des trucs, ça ne marche pas. On en fait d'autres. Et comme on en a plein d'autres en tête, et ben, on ne s'en formalise pas et ce n'est pas très grave. On continue.
Super, bah c'est en tout cas je vous invite tous à aller à l'Entre-deux-Mondes le plus rapidement possible, que vous connaissez déjà ou si vous ne connaissez pas encore, c'est encore plus urgent.
Merci.
Et voilà, bah merci Loïc d'avoir pris le temps de venir
merci
aussi
beaucoup de m'avoir invité
à la radio aujourd'hui, c'était cool. L'émission touche à sa fin cette fois.
Merci.
On va se quitter en musique. Et puisque j'ai dit que j'étais fan, et ben, comme je suis une vraie fan, je repasse une autre musique de Dune. Oui, je n'ai pas vraiment réussi à choisir une seule musique, donc du coup, je vais passer une
pourquoi
dernière.
Pourquoi choisir si les deux sont bien ?
Exactement. On se termine avec Living Caladan, donc de Hans Zimmer, bande originale du film Dune, actuellement au cinéma, et je vous conseille aussi d'aller le voir.